Le Québec a été, faut-il le rappeler, le seul espace nord-américain à connaître et avoir perduré pendant plusieurs siècles le fait seigneurial. Mon propos s'inscrit dans un programme de recherche que je dirige, intitulé Les persistances de la propriété seigneuriale au Québec, économie, société, culture. La phase 1 de ce projet relative aux enjeux économiques est en voie d'être complétée. L'article dans HSR faisait partie de cette première phase. Et la seconde, qui portera sur l'identité et la mémoire des derniers seigneurs, est en cours d'élaboration. Cette seconde phase vient tout juste d'obtenir le soutien financier du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour une période de 5 ans. Donc, vous devriez me revoir peut-être ici d'ici 2019 avec des éléments de cette deuxième phase. Je tiens enfin à souligner, c'est très important pour moi, l'essentielle collaboration de plusieurs étudiants qui ont agi comme assistants de recherche pendant cette première phase, en particulier l'un d'eux qui ne pouvait pas être ici, mais que je tiens à mentionner, Michel Morissette, qui a aussi collaboré à l'article d'HSR et qui a réalisé toutes les cartes que vous verrez pendant la présente communication. Le 11 novembre 1940, jour traditionnel de la Saint-Martin d'hiver, les censitaires du Québec ont versé pour la toute dernière fois des rentes à leur seigneur. Dès lors, aucune personne ni institution ne pourra prétendre au titre de seigneur dans la province de Québec. Cette date, occulté à l'époque dans les journaux, et là j'attire votre attention sur, ben ici c'est agrandi, ça vient d'un autre journal, vous avez le quotidien Le Devoir, qui est le principal quotidien des élites intellectuelles québécoises à l'époque. Alors c'est un petit entrefilet, il faut continuer à l'intérieur. Vous voyez les nouvelles relatives à la guerre, hein, le discours d'Hitler à Munich, les Italiens repoussés sur le front tiennent une place nettement plus importante que ce fait que moi, ruraliste, je considère fondamental dans la compréhension de l'histoire rurale québécoise et de toute évidence passé assez inaperçu à l'époque dans les journaux, occulté donc par les événements de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est un fait également ignoré des praticiens de l'histoire du 20e siècle québécois, ce dont je reparlerai en conclusion. Il n'en demeure pas moins ce fait le moment ultime de l'extinction des devoirs et droits seigneuriaux, en somme, on pourrait dire, la rupture définitive de ce lien féodal. C'est que les persistances seigneuriales sont nombreuses dans le Québec du 20e siècle, bien longtemps après l'abolition législative de ce régime. Ces traces ne se limitent pas, comme on le croit souvent, au paysage et à la toponymie. Les seigneurs et les censitaires sont encore bien réels dans la société québécoise des années 1900-1940. Et certains indices laissent d'ailleurs à penser qu'ils n'ont pas complètement disparu en ce début de 21e siècle. En atteste cette notice nécrologique très récente, elle date de février 2014, du seigneur, alors on mettra ici des guillemets, Edmond Joly de Lotbinière, paru dans les journaux à l'échelle de tout le Canada d'ailleurs et dans les deux langues officielles, ce qui montre également la persistance de ces anciennes familles nobles et de leur rapport à l'ensemble du Canada dans une perspective, disons, biculturelle. Bon, j'attire votre attention sur certains, évidemment, bon, Monsieur de Lotbinière, que je comptais rencontrer dans mes enquêtes orales de la seconde phase de ma recherche, malheureusement, pour moi et pour sa famille, j'imagine aussi, est mort trop vite. Mais, outre sa carrière très impressionnante et son service au service de Sa Majesté la Reine, comme beaucoup de ces élites qui, dès le début du régime anglais, seront de loyaux et fidèles serviteurs de la couronne britannique s'ils choisissaient de demeurer au Canada, beaucoup de leurs descendants jusqu'au 20e siècle vont contribuer et continuer cette tradition de loyauté envers la couronne représentée au 20e siècle par les institutions canadiennes. Donc, homme de distinction, de générosité, de bonté, il fut le fils unique, seul héritier d'une des plus anciennes seigneuries du Canada. Et là, ce n'est pas tous les jours, peut-être ici, mais ce n'est pas tous les jours chez nous qu'on cite Louis XIV dans une notice nécrologique, croyez-moi. Concédée en 1672 par l'intendant Talon sous Louis XIV, la seigneurie est restée dans la famille jusqu'en 1967, année où elle fut acquise par le gouvernement du Québec. Et alors là, on entre dans le patrimoine. Bon, je vais revenir sur ces enjeux plus tard. Mais avant de synthétiser les ultimes soubresauts de l'histoire seigneuriale au 20e siècle et de dresser quelques constats relatifs à ces persistances et aux enjeux mémoriels qu'ils impliquent, il est nécessaire, je pense, pour l'auditoire réuni aujourd'hui, de rappeler brièvement les fondements historiques de la seigneurie en sol canadien et surtout les conséquences de la loi abolissant le régime seigneurial promulgué en 1854, notamment en termes de maintien de la propriété seigneuriale. Donc, vu le temps qui m'est imparti, vous me permettrez quand même de passer assez rapidement sur les enjeux historiques. Il me fera plaisir de répondre à vos questions si tout cela demeure un peu nébuleux pour vous. Pour reprendre les mots de l'historienne québécoise Louise Dechêne, au Canada, je la cite, « la seigneurie a précédé tout le reste ». À la différence des seigneuries européennes, on le sait, dont les origines sont souvent bien obscures, l'implantation du mode seigneurial au Canada est clairement documentée par les actes de concession de seigneurie et, à l'échelle des paysans, par les actes de concession de censive. En créant une colonie de peuplement dans la vallée du Saint-Laurent au XVIIe siècle, la France a transposé les grands traits de la société d'Ancien Régime en Amérique du Nord. Et l'un, sinon le principal legs de celle-ci est bien entendu la propriété seigneuriale, qui sera instaurée durablement sur les rives du fleuve Saint-Laurent à compter de la décennie 1620. Peut-être quelques indications autour de cette carte transposée sur le territoire actuel du Québec. Donc, vous aurez compris que tout ce qui est en violet, c'est le territoire qui a fait l'objet de concessions sous le mode de la seigneurie. Essentiellement, avant la conquête britannique, qui est concrétisé en 1763 par le traité de Paris qui met fin à la guerre de 7 ans. Alors, vous voyez que dans l'ensemble de ce vaste territoire qu'est le Québec, c'est une petite partie qui est occupée par la propriété seigneuriale, mais c'est une partie ô combien cruciale, puisque c'est tout le littoral du fleuve Saint-Laurent qui est le cœur, l'artère vitale, le seul accès jusqu'au 19e siècle, à l'intérieur donc de cette Amérique du Nord française, puis britannique. Environ 350 seigneuries au total seront concédées pendant le régime français, donc avant 1763, selon un rythme très inégal. Beaucoup de ces seigneuries ont été octroyées au 17e siècle, à une époque où la colonisation est très, très modeste. Alors, il faudra évidemment beaucoup de temps pour que ce territoire seigneurial soit mis en valeur. En fait, je n'ai pas de carte ici, mais on pourrait voir sur de nombreuses cartes, notamment dans un atlas récemment réalisé par Alain Laberge, quand l'espace concédé et l'espace mis en valeur est défriché, il y a une large différence. Et certaines de ces seigneuries, appelons-les périphériques, ne sont pas du tout concédées à des fins de colonisation pionnière. Ce sont plutôt ce qu'on pourrait appeler des seigneuries d'exploitation concédées à des seigneurs, en guillemets, entrepreneurs, qui mettront de l'avant le commerce des pêcheries, par exemple. L'immense seigneurie de l'île d'Anticosti est une seigneurie d'un seul tenant qui appartient donc à un homme de mérite qui fut l'un des premiers Français à découvrir, d'un point de vue européen, le Mississippi. Alors, on lui concédera en retour l'île d'Anticosti que ses descendants conserveront jusqu'au 19e siècle. Donc, seigneurie d'exploitation versus seigneurie de peuplement au cœur de la vallée du Saint-Laurent. Alors, première réalité peut-être à avoir en tête. Évidemment, comme dans l'Ancien Monde, ce seront essentiellement les privilégiés, noblesse et clergé, qui obtiendront cette propriété seigneuriale, mais aussi certains roturiers de très, très basse extraction, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais dont je reviendrai vous entretenir lors du congrès du mois d'octobre, dont on parlait tout à l'heure. Cette propriété seigneuriale, les propriétaires seigneuriaux vont se modifier, vont se transformer au fil du temps, notamment sous la poussée d'une bourgeoisie en ascension constante et aussi vu le déclin de la noblesse, dont une bonne partie rentrera ou reviendra en France après la conquête de 1763. Donc, un gros brassage de la propriété seigneuriale à partir des années 1760 jusqu'à la moitié du 19e siècle. Vers 1850, c'est plus de la moitié de ce territoire seigneurial qui sera dorénavant entre les mains de propriétaires d'origine britannique, qu'ils soient écossais, anglais ou irlandais. Alors, ça, c'est des faits marquant de la société seigneuriale canadienne que cette transformation qui amènera ce que j'appelle parfois un double rapport d'altérité, c'est-à-dire une différence de statut social entre les paysans et leurs seigneurs, mais aussi une différence de point de vue ethnique de paysans canadiens d'origine française et catholique et souvent de seigneurs anglais protestants. La seigneurie accompagne effectivement les premiers balbutiements de l'histoire canadienne sous le régime français et va constituer un élément incontournable tant de la société que du paysage laurentien tout au long du régime français, puis anglais, voire jusqu'à nos jours. Donc, je le disais, le régime seigneurial survit à la conquête du Canada par les Britanniques en 1763. Et ces Britanniques, notamment les Écossais, vont se montrer rapidement intéressés par les revenus, mais aussi par le prestige associé à la propriété seigneuriale. De très rares. Donc, on préserve le mode seigneurial, on préserve les propriétés qui sont déjà concédées, mais il y aura très, très peu de nouvelles seigneuries, en fait, 8 au total, dans le siècle qui suivra, qui seront concédées. Alors, on maintient le régime seigneurial essentiellement pour des raisons d'ordre pragmatique. C'est que dans les 30 années qui suivent la conquête, il n'y a presque pas d'immigration anglo-saxonne, contrairement à ce qu'escomptaient les conquérants. La première véritable vague migratoire anglaise va survenir après l'indépendance des États-Unis en 1783. Alors, la frange de la population de ces anciennes colonies anglaises, qu'on appelait les 13 colonies, la frange de cette population qui avait choisi le parti de la Grande-Bretagne au lendemain de la victoire et de l'indépendance américaine, c'était le mauvais parti, on aura compris. Alors, beaucoup vont faire le choix d'aller vers ce qui reste de colonies anglaises en Amérique du Nord. Donc, c'est dans l'ancienne colonie française, devenue britannique, que vont migrer beaucoup de ces individus qu'on appelle chez nous, en histoire canadienne, les loyalistes. Donc, les loyalistes vont migrer dans l'ordre de 50 000 individus dans les années 1790. Et là, c'est la véritable révolution sur le plan de l'occupation du territoire. Donc, un changement démographique d'importance qui va conduire à l'adoption de l'acte constitutionnel, donc nouvelle constitution, en 1791, qui sépare le territoire de ce qui était la province of Quebec depuis la conquête britannique, donc un vaste territoire sur lequel lorgnaient les coloniaux des 13 colonies qui souhaitaient évidemment, vu la croissance démographique, occuper ce territoire dans l'arrière-pays. Au lendemain de la guerre d'indépendance américaine, une partie au sud des Grands Lacs est devenue territoire américain, mais cette ancienne province of Quebec va être scindée en deux. On parlera dorénavant du Bas-Canada, qui correspond en gros au territoire actuel du Québec, et au Haut-Canada. Pourquoi l'importance de cette division sur mon propos aujourd'hui? C'est qu'à partir de cette date, de 1791, va être un peu scellé le sort de la propriété seigneuriale. C'est que la Constitution décrète clairement que dans le Haut-Canada, qu'on ouvre à la colonisation essentiellement pour ces loyalistes venus des États-Unis, il n'y aura plus de mode seigneurial. Donc, il n'y avait pas, ou à peu près pas, de défrichement qui avait eu lieu dans cette région extrêmement fertile de la plaine des Grands Lacs. Dorénavant, les terres seront occupées selon le mode anglais de la pleine propriété, du franc et commun socage, donc en l'absence de toute autorité, de tout pouvoir seigneurial. Et, chose encore plus intéressante pour mon propos, tout le territoire du Bas-Canada qui, dorénavant, sera ouvert à l'exploitation, à des fins de colonisation, sera aussi occupé selon la tenure anglaise du franc et commun socage. Autrement dit, on n'abolit pas la propriété seigneuriale, on maintient le régime seigneurial, mais seulement dans la zone qui avait été préalablement divisée en seigneuries. Donc, tout autour, on entourera ces seigneuries de « townships », qu'en français, au 19e siècle, des géographes traduiront sous le nom de « canton ». On aura donc cette zone, ici on a une carte du tournant du 19e siècle, on ne voit pas particulièrement bien, mais cette zone seigneuriale, derrière laquelle vont s'installer, à partir des années 1790 et surtout au début du 19e siècle, donc des « townships », selon un découpage et une géographie anglaise. D'abord, essentiellement pensée pour les immigrants anglais, mais encore une fois, vu l'immigration qui va rester après les loyalistes assez mince jusqu'après les guerres napoléoniennes, ce seront en bonne partie les Canadiens français qui bientôt seront trop restreints à l'intérieur du territoire seigneurial, qui vont déborder vers ces townships. Et aujourd'hui, qu'on soit en territoire de seigneurie ou qu'on soit en territoire de townships, dans le territoire du Québec, nous avons une majorité canadienne française, mais qui est à cheval, donc sur deux anciens systèmes de propriété foncière. Donc, le régime seigneurial, si je récapitule, il n'est pas aboli, mais il apparaît définitivement condamné à disparaître. Il est en quelque sorte en sursis. Mais c'est finalement en 1854, avec l'acte pour l'abolition des droits et devoirs féodaux dans la province du Bas-Canada, l'intitulé de la loi, que le régime seigneurial est aboli. Ce régime aura donc survécu près d'un siècle après la conquête britannique et plus d'un demi-siècle après l'abolition de la féodalité en France. À l'ère du chemin de fer et de l'industrialisation, Le régime seigneurial était devenu un anachronisme fortement décrié, notamment par la bourgeoisie capitaliste britannique, pour l'essentiel, en plein essor, et tout particulièrement dans les villes. Je n'aborderai pas aujourd'hui les motivations et les débats entourant l'abolition, puisque ce qui m'intéresse, c'est la période qui suit. Mais évidemment, on pourra y revenir en période de questions. Toutefois, l'abolition de 1854 doit être considérée non pas comme l'aboutissement, comme on le fait trop souvent, mais plutôt comme un jalon certes important dans une extinction que je qualifie de progressive. Deux dates permettent de baliser cette lente extinction de la propriété seigneuriale au Québec, le 18 décembre 1854, donc date de l'adoption de cette loi, et le 11 novembre 1940, date que je vous proposais en introduction. Donc, allons plus avant sur cet acte de 1854 et ce qu'il implique en termes de maintien de la propriété seigneuriale. Donc, la loi est adoptée, elle reçoit sanction royale, je le disais, le 18 décembre 1854, au terme de plusieurs décennies de tergiversations au sujet du devenir de la seigneurie. Elle met fin, effectivement, aux droits et devoirs ainsi qu'aux privilèges des seigneurs, à commencer par l'abolition sans indemnisation des privilèges honorifiques des seigneurs. Retenez bien que c'est tout, ces droits honorifiques, c'est absolument la seule chose qui ne sera pas indemnisée. Donc, absence d'indemnisation, abolition simple et nette des droits honorifiques. Mais si vous vous rappelez la première illustration, et j'y reviendrai à la fin, d'un beau banc seigneurial dans une église actuelle, on verra que dans nombre de collectivités, les privilèges honorifiques envers les familles seigneuriales, surtout lorsqu'elles sont résidentes, eh bien, ils se maintiendront pour une large partie du 20e siècle. Ce n'est pas de cela que je vous entretiendrai aujourd'hui, c'est plutôt ce qui m'intéressera dans la phase à venir. Donc, en effet, cette abolition, elle est réalisée dans le souci, maintes fois répété d'ailleurs par le législateur, du respect de toutes les dimensions de la propriété privée, et elle prévoit des indemnisations pour les seigneurs déchus de leurs droits lucratifs. Bon, on sait évidemment que sous le régime seigneurial, la propriété implique justement pour les seigneurs deux composantes, la propriété utile, soit la jouissance complète des domaines et des terres non concédées, et la propriété éminente, c'est-à-dire les droits maintenus par les seigneurs sur les terres concédées en censive et qui se manifestent par le paiement annuel du cens par les censitaires. La loi de 1854, elle prend en considération ces deux dimensions de la propriété. D'une part, elle reconnaît la propriété utile en maintenant les seigneurs en pleine possession du domaine et des terres non concédées. Pour les principaux intéressés, il s'agit d'un changement nettement avantageux, puisqu'auparavant, en vertu notamment d'un édit promulgué en 1711 par le roi et relatif à la Nouvelle-France, ceux-ci n'étaient pas autorisés à vendre des terres non concédées, ce qu'ils pourront dorénavant faire sans obstacle. Donc, un exemple de cet impact direct pour les seigneurs à l'époque, donc milieu du 19e siècle, prenons ici l'immense seigneurie de Beaupré, qui était l'une des plus vastes sur la carte que je vous ai présentée au point de départ. Si certains d'entre vous ont déjà visité le Québec, alors vous avez ici la chute Montmorency, tout près de la ville de Québec. Cette seigneurie couvre, pour parler en termes de mesure d'Ancien Régime, elle couvre 15 lieues de front sur le fleuve Saint-Laurent jusqu'à la baie Saint-Paul, donc au pays de Charlevoix, par 6 lieues de profondeur. C'est une seigneurie tout simplement gigantesque, dont seule une partie avait été concédée en censive, puisque les montagnes qui occupent une vaste partie de ce territoire sont très près du fleuve, alors on n'avait seulement qu'une rangée, qu'un rang de concessions sur la bordure du fleuve. Tout le reste était encore de vastes étendues forestières dont le séminaire de Québec, seigneur de Beaupré, devient pleinement propriétaire en vertu de l'acte d'abolition de 1854. C'est ce qui lui permet d'ailleurs, tout le long du 19e siècle, d'exploiter les forêts en cédant par bail à de grandes entreprises forestières ces forêts qui comptent 1600 km². C'est la plus grande forêt d'un seul tenant privé au Canada encore aujourd'hui, en raison de cette décision du législateur de 1854. Aujourd'hui, ce n'est plus l'exploitation forestière qui occupe ces forêts du séminaire de Québec à Beaupré, mais plutôt l'exploitation de l'énergie éolienne, puisque depuis quelques années se met en place sur cette ancienne terre seigneuriale, le plus vaste projet éolien à avoir été mis en place au Québec. Et quand on va sur le... Je ne l'ai pas mis ici, je crois que je l'ai mis plus loin. Quand on va sur le site Internet du Séminaire de Québec, le séminaire qui a encore la main mise sur ces territoires parle véritablement de sa seigneurie de Beaupré. Et on ne mentionne même pas l'abolition, d'ailleurs, dans le petit historique qu'on y fait. Donc, la période industrielle qui s'amorce alors sera, pour de nombreux seigneurs, dans des secteurs un peu moins isolés et un peu plus intéressants, à proximité des villes notamment, ou carrément en ville dans certains cas. Donc, cette période industrielle qui s'amorce au milieu du 19e siècle sera donc une occasion inespérée pour certains seigneurs ou leurs descendants, ou ceux qui acquerront ces terres, donc de vendre ou de subdiviser en lots en vue d'un éventuel développement urbain ou villageois. Ce sera le cas, par exemple, du centre-ville de Saint-Hyacinthe, autrefois une grande seigneurie rurale à laquelle s'est intéressé l'historien Christian Dessureau, dont le centre-ville va être entièrement loti sur l'ancien domaine seigneurial par un entrepreneur qui a vu là la possibilité d'affaires et qui lui va acheter du dernier seigneur au début du 20e siècle ses terres domaniales et va donc les lotir. Donc, d'une part, maintien de la pleine propriété sur tout ce qui n'est pas concédé ou sur l'ancien domaine. Première décision. Deuxième décision importante de la loi de 1854, celle-ci reconnaît la propriété aussi éminente des seigneurs et va prévoir des indemnisations pour les droits perdus qui y étaient associés, qu'il s'agisse des censérantes, des lots et ventes ou des droits de banalité ou même des corvées qui, dans la plupart des cas, n'étaient plus exigées à l'époque. La valeur du moindre chapon ou les journées de corvée prévues dans les contrats de concession remontant pour la plupart du temps au 17e siècle seront estimées et entreront dans le calcul de l'indemnisation. En somme, l'acte seigneurial s'est révélé très favorable au seigneur. Il s'agit d'un fait sur lequel l'historiographie a été considérablement silencieuse, faisant de ce moment le point final de l'histoire seigneuriale au Québec, en oubliant la portée tant sur les seigneurs que sur les censitaires, ce qui nous intéressera aujourd'hui. La loi prévoit aussi la mise en branle d'un processus complexe, incluant la création d'une cour spéciale représentée ici derrière moi et la confection du cadastre seigneurial au terme d'enquêtes menées sur le terrain pour chaque seigneurie à l'échelle de chaque lot par des commissaires chargés de faire rapport. Les décisions de la Cour et les constats des commissaires vont se solder par des dédommagements financiers de l'ordre de 10 millions de dollars au tournant de la décennie 1860. Il faut environ donc 5 à 6 ans pour mettre en place tout l'ensemble de ce processus. Ces millions seront versés par le gouvernement. À l'époque, nous sommes sous l'Union, c'est-à-dire qu'on avait depuis 1840 uni les deux Canada, donc par le gouvernement de l'Union, à l'exclusion d'une chose. La seule chose qui ne sera pas indemnisée à l'époque directement aux seigneurs par l'État, c'est le rachat des rentes seigneuriales qui demeureront à la charge des censitaires. Ces derniers auront alors la possibilité de procéder au rachat du capital de la rente, puisque l'on aura, pour chacune des terres, fait un calcul sur une base d'un intérêt de 5 % de la valeur capitalisée, donc des rentes payables annuellement. L'idée étant qu'à défaut de ce rachat, en se présentant avec son seigneur chez le notaire pour obtenir quittance, à défaut de rachat, ce qui était évidemment impossible avant l'abolition, c'est la principale transformation, les censitaires devront continuer à verser annuellement, et ça c'est prévu dans la loi, une rente constituée à leur seigneur selon les mêmes modalités qu'avant l'abolition, c'est-à-dire le 11 novembre de chaque année et au même lieu, au manoir seigneurial, à moins que le seigneur en décide autrement. D'ailleurs, très intéressant, l'article 37 de la loi d'abolition stipule que, je cite, « les propriétaires de ces rentes continueront à s'appeler seigneurs et les débiteurs de ces mêmes rentes continueront à s'appeler censitaires ». Nos travaux ont révélé que le peu d'avantages à racheter cette rente et les faibles montants payés par la plupart annuellement ont eu pour conséquence que dans près de 80 % des cas, peut-être plus, on pense avoir été très raisonnable dans nos calculs, que dans près de 80 % des cas, les rentes seront toujours dues et payées au commencement du 20e siècle. Donc, quelques données ici, issues de la première phase de cette recherche. Bon, à l'échelle de toutes 215 seigneuries pour lesquelles il y avait des rentes constituées, on sait que de ce qui était dû au cadastre en 1860, ce qui reste dû en 1940 compte pour 81 % de la somme qui n'a pas été indexée, donc, et pour laquelle on ne tient pas compte de l'augmentation du coût de la vie. Donc, dans certaines régions, la région de Trois-Rivières, c'est plus de 90 % de cette somme qui reste due, un peu moins dans la région de Québec, et la région de Montréal tombe pile en plein milieu. Donc, ça, c'est la valeur totale. Quand on observe en termes de localisation de ces seigneuries, on peut voir des seigneuries en noir ou carrément, plus de 100 % de la somme demeure due, puisque, bon, certains seigneurs ont, de façon plus ou moins légale, continué à concéder des terres dans la période de confection du cadastre, alors que théoriquement, ils ne pouvaient plus le faire. Et plus les seigneuries sont pâles sur la carte, plus la commutation ou le processus de rachat de cette rente est avancé. Mais ce qu'on retiendra, c'est que donc, massivement des paysans, mais aussi certains urbains, dans le Québec de la première moitié du 20e siècle, qui continuent, comme le faisaient leurs aïeux au 19e et au 18e siècle, à se présenter, année après année, à la Saint-Martin d'hiver, chez leur seigneur, pour payer des rentes seigneuriales. Donc, cette question de la persistance de seigneurs et de censitaires refait surface de temps à autre à l'Assemblée législative du Québec. Parce qu'entre-temps, il y a eu la Confédération canadienne en 1867 et que dorénavant, le Québec a retrouvé son autonomie législative avec la création d'un Parlement. Donc, c'est dorénavant le Parlement du Québec et non plus celui du Canada qui va au 20e siècle légiférer sur les questions de propriété seigneuriale. Donc, à l'Assemblée législative, au début du siècle, quelques lois impliquant les municipalités tentent de donner la possibilité, en fait, à ces municipalités, par elles-mêmes, de mettre fin à ces rentes seigneuriales, mais ces lois seront à peu près sans effet. Quelques élus vont tenter sporadiquement ramener cette question devant l'Assemblée, mais il faut attendre le député-maire de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, c'est la ville dont je vous parlais tout à l'heure, pas très loin de Montréal. Télesphore Damien Bouchard, donc un des fondateurs de l'Union des municipalités du Québec, maire lui-même, député, qui va réfléchir à la manière d'intégrer les cités et villes dans le règlement de la question seigneuriale une fois pour toutes. Il va d'ailleurs affirmer dans un discours prononcé à l'Assemblée législative en 1926 que le Québec, je le cite, est le dernier endroit dans l'univers, rien que ça, où subsistent des droits seigneuriaux. Je pense qu'on pourrait le contester, mais son esprit qui veut moderniser le Québec, il y a une volonté, comme partout dans le monde, de modernisme dans les années 1920-1930. Or, Télesphore Damien Bouchard et plusieurs des membres de son parti considèrent évidemment que modernité et féodalité vont difficilement de pair. D'autant que, rappelez-vous, une large partie du territoire du Québec n'a pas connu le régime seigneurial. Alors, ce qu'il met de l'avant dans son discours, qui sera publié, c'est justement le fait que subsistent deux classes de citoyens dans le territoire du Québec. Ceux qui doivent toujours, de façon archaïque, se présenter chez un seigneur, même si c'est pour régler des tout petits montants annuellement, et ceux qui ne sont pas tenus à de tels droits. Donc, Bouchard sera le principal artisan de la dernière phase de l'extinction des droits seigneuriaux. Son action va conduire 10 ans plus tard, il faudra du temps, en 1935, à l'adoption de la loi abolissant les rentes seigneuriales. Vous voyez, même la loi, même les législateurs ne parlent pas de rentes constituées, alors que légalement, il n'existe plus de rentes seigneuriales depuis 1854. Mais on voit bien que dans les esprits, et ça se transpose dans la loi, l'appellation rente seigneuriale est celle qui est utilisée par le législateur. Donc, une loi, 1935, plus de 80 ans après la supposée abolition de 1854, loi abolissant les rentes seigneuriales, qui va créer le syndicat national du rachat des rentes seigneuriales, selon un modèle que Bouchard a emprunté à l'abolition de la féodalité dans le duché de Savoie dans les années 1770. Alors là, je n'ai pas enquêté, mais je serais curieux de savoir comment Bouchard en est venu à être au courant de ce modèle. Mais bref, il le dit très clairement, c'est la source de l'inspiration pour cette dernière phase de l'extinction qui inclut et qui implique, en fait, qui donne un rôle très actif aux municipalités à l'intérieur, qui se sont créées au fil du temps à l'intérieur de ces seigneuries. L'objectif de ce syndicat, qui n'est nullement un syndicat, mais plutôt un bureau central qui va regrouper l'ensemble des administrations municipales du Québec, donc l'objectif de cet organisme est de faciliter la libération de toutes les terres ou lots de terres des rentes constituées ayant remplacé les droits seigneuriaux. Concrètement, il a pour mandat de rembourser, une fois pour toutes, les seigneurs de ce capital qui leur est dû afin de rompre le lien qui avait jusque-là persisté par le paiement des rentes constituées. Administré par un bureau des commissaires que vous voyez ici, dont Télesphore Damien Bouchard sera le premier président, le syndicat national du rachat des rentes seigneuriales va contracter un emprunt garanti par le gouvernement du Québec pour exécuter son mandat. Théoriquement, après le 11 novembre 1940, qui sera décrété comme étant la dernière année ou la dernière date du paiement de rente seigneuriale de personne à personne, le lien sera rompu et les seigneurs, s'ils ont montré la preuve de leur titre de propriété, seront dédommagés par le syndicat. J'y reviendrai tout à l'heure sur ces dédommagements. Alors, ça implique de la part de ce syndicat et de ses employés, un processus assez conséquent, notamment de constitution de terriers des rentes constituées, qui seront faits à l'échelle, non pas seigneuriale, mais municipale. On compte environ 800 municipalités pour les quelques 250 seigneuries qui subsistent à l'époque, où il subsiste des rentes. Donc, ici, par exemple, terrier de la municipalité de la ville de Beauport, qui correspond à une partie de l'ancienne seigneurie du même nom. Donc, ces terriers permettent de connaître, et c'est ce qu'on veut savoir, qui paye encore et qui paye encore quoi. Donc, ça se présente de cette façon avec toutes les informations concernant les censitaires, donc à l'époque, et les paiements qu'ils doivent annuellement et le paiement capitalisé. Ce sont des montants qui sont tout simplement presque risible au 20e siècle, 10 sous, qui donne un capital d'$1,67. Alors, évidemment, la question se pose, hein, pourquoi ne pas, cet habitant de Beauport, pourquoi n'est-il pas allé chez son seigneur une fois pour toutes, ou son père avant lui, ou son grand-père avant lui? Et là, on parle ici d'anciens habitants prospères qui sont sur place depuis longtemps, qui en avaient facilement les moyens. Ah, la question n'est pas résolue de façon claire, mais on peut très simplement imaginer un pragmatisme. Il en coûterait plus cher d'aller chez le notaire obtenir quittance que de continuer à payer cette somme minime qui est peut-être même devenue, dans une certaine mesure, folklorique à l'époque. Néanmoins, certains témoignages d'aînés que je voudrais collecter de façon un peu plus systématique tendent à montrer que quand, dans certains cas, les seigneurs envoyaient des percepteurs pour ces petits montants, on les accueillait avec beaucoup de mauvaise grâce. Et un aîné m'a raconté dans une conférence il n'y a pas longtemps, il me disait, je me souviens, je vivais avec ma grand-mère et vers 1937-38, le seigneur envoyait son collecteur et ma grand-mère, qui était une femme douce, paisible et tranquille, il dit, c'est la seule fois de ma vie que je me souviens de l'avoir vue fâché, lui m'a dit en maudit, parce que l'employé du seigneur était venu collecter sa rente, qui était minime. Mais bref, je ne suis pas si sûr que ça de ce caractère folklorique et de ce paiement de bonne grâce. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. On avait même fourni aux municipalités des cahiers en rouge pour les censitaires qui avaient cessé de payer. Pour savoir ce qui ne serait pas payé ou indemnisé au seigneur, puisque si les rentes n'étaient plus payées depuis au moins 5 années, eh bien, le syndicat n'allait pas se substituer au seigneur qui était de mauvais créancier. Donc, et on a donc, dans chacun des cas, la date du dernier paiement. Dans certains cas, ça remonte au 19e siècle. Donc, certains seigneurs avaient, au fil du temps, un peu laissé aller, parce que certainement que pour eux aussi, il y avait certains soucis attachés à la perception de ces rentes. D'autres, au contraire, avaient au fil du temps créé des compagnies, des fiducies pour gérer ces rentes de façon beaucoup plus structurée, surtout dans des seigneuries bien peuplées, parce que cumuler ces petits montants pouvait, à l'échelle d'une seigneurie, être quand même conséquent annuellement. Et tous ces paiements annuels capitalisés, à eux, ils devenaient très intéressants, et c'est ce qu'on va voir dans un instant, et c'est ce qui sera remboursé aux seigneurs, donc qui auront fait, d'une part, la démonstration de ce qui leur était dû, et d'autre part, la démonstration de leur titre de propriété. Donc, par quelle voie prétendaient-ils être détenteurs de ces droits sur les rentes seigneuriales en 1935-1940? Dans certains cas, c'est très simple. Hein? Beaucoup d'institutions religieuses, notamment, possédaient les rentes ventes seigneuriales et les seigneuries en 1854, eh bien, en l'absence de succession, de transmission du patrimoine, ça va très bien. Le séminaire de Québec possédait la seigneurie en 1854, il la possède toujours en 1935. Les rapports sont simples. Dans le cas des successions familiales, là, c'est beaucoup plus ardu, mais les notaires mandatés par le syndicat vont produire, ici j'en ai mis un très très sommaire, mais des chaînes de titres comme celle-là pour chacune des seigneuries et statuer à la fin de la validité des titres seigneuriaux. Donc, Michel Morissette, mon étudiant, a justement pu cartographier ces liens, notamment, qui unissent les seigneurs, qui sont considérés comme les derniers seigneurs légitimes vers 1940, à ceux de 1854. On s'aperçoit que, évidemment, bon, ici, ça c'est notre très, très vaste seigneurie de Beaupré dont j'ai parlé. Institutions, qui sont-ils, ces seigneurs? Bon, ce sont parfois des institutions religieuses, ce sont parfois des institutions laïques. Il y en a peu au 19e siècle, mais il y en a au 20e siècle, notamment des institutions financières. Alors, il y a des banques qui ont saisi, évidemment, notamment au fil du temps, mais qui ont conservé la gestion parce qu'ils y ont vu certainement un intérêt, mais aussi des particuliers, notamment des paysans qui sont devenus en quelque sorte les derniers seigneurs de leur propre localité en achetant ces droits seigneuriaux à leurs anciens seigneurs. Donc, je passe rapidement là-dessus et on en arrive à ce tableau qui montre finalement les paiements qui seront faits entre 1940 et 1950. Mais avant, je dirais que de leur côté, une fois ce dédommagement fait au seigneur par le syndicat, par ce prêt de quelques 3 millions de dollars, les anciens censitaires, même s'ils ne seront plus légalement des censitaires, même s'ils seront dorénavant débarrassés de cette visite, de ce paiement annuel à leur ancien seigneur, et qu'ils seront clairement propriétaires de leurs terres, n'en auront cependant pas fini avec les rentes seigneuriales, puisque ce seront dorénavant les municipalités qui prendront la relève en prélevant une nouvelle taxe, dite taxe seigneuriale ou taxe spéciale, équivalent à l'ancienne rente constituée, et qui sera payable en même temps que les taxes municipales. Mais chose intéressante, c'est toujours, même si les taxes municipales ne sont pas dues le 11 novembre, ce sera toujours le 11 novembre que le versement par les municipalités au syndicat devra être effectué. Dans de nombreuses municipalités, on va payer cette taxe jusqu'au tournant des années 1970. En fait, la loi de 1940 prévoyait jusqu'en 1981, une période de 41 années, pour que les municipalités achèvent de rembourser la dette contractée par l'organisme pour rembourser les seigneurs. Mais nos seigneurs, eux, ils auront été remboursés depuis belle lurette à ce moment-là. L'organisme va finalement faire plus vite que prévu et va fermer ses comptes, ses livres, en 1974 et, très heureusement pour nous, céder ses archives aux Archives nationales du Québec dès l'année suivante, en 1975, ce qui permet aujourd'hui donc de reconstituer cette phase ultime de l'extinction de la propriété seigneuriale. Donc, nos recherches sur le groupe seigneurial au 20e siècle, rendues possibles par ces riches archives, notamment par les chaînes de titres de chaque seigneurie, ont permis, je le disais tout à l'heure, d'identifier les détenteurs des titres seigneuriaux, ceux qui peuvent légitimement revendiquer le titre de dernier seigneur dans la province de Québec, et ceux qui furent ultimement dédommagés. Entre le 4 décembre 1940 et le 25 janvier 1950, donc durant la décennie 1940, ce sont 3 193 000 $, et là je vous épargne les détails, 3 200 000, pour faire un chiffre rond, qui seront versés par l'entremise de plus de 700 chèques aux quelques 550 individus reconnus légalement comme seigneurs en vertu de ces rapports. Donc, plus de seigneurs que de seigneuries, puisque bien sûr, dans le cas de succession, on pouvait avoir une multitude de frères et sœurs ou de membres, apparentés ou non, qui détenaient un même fief. Donc, je répète, 3 200 000 par 700 chèques à quelques 550 individus reconnus comme seigneurs à titre de remboursement de ce capital des rentes constitué. Les dédommagements financiers consentis aux seigneurs lors de ce que j'appellerai cette seconde abolition, cette seconde phase de l'abolition, ils sont significatifs, d'autant qu'il s'agit d'un revenu d'appoint pour la plupart de ces individus qui exercent alors d'autres fonctions. Ces seigneurs constituent d'ailleurs, on l'aura vu, un ensemble très hétéroclite, tantôt des individus, tantôt des institutions laïques ou religieuses. Donc, il resterait à cerner les motivations de ces acquéreurs de droits seigneuriaux au 20e et à la fin du 19e siècle, mais il semble bien que le prestige associé à la seigneurie et au statut seigneurial conserve, même dans le cas de droits seigneuriaux atténués, un pouvoir d'attraction et peut-être même d'investissement non négligeable. De grands propriétaires institutionnels comme la Montreal Investment Trust Company, qui perçoit une somme à elle seule de 200 000 $ pour une seule seigneurie, très vaste, ou des individus comme Rosaire Dupuis, qui reçoit un chèque de 65 000 $ sont nettement au-dessus de la moyenne qui s'établit autour de 6 000 $ par seigneur. Mais à l'autre bout du spectre, on reçoit aussi, on retrouve quand même un lot d'individus qui reçoivent des montants dérisoires, tels ces cinq membres de la famille Lozo à la baie du Fèvre qui reçoivent chacun un chèque de 2,29 $ comme co-héritiers de la baie du Fèvre. Mais ce sont quand même un peu plus de la moitié qui touchent au-dessus de 1 000 $ qui est une somme quand même conséquente à l'époque. Même l'État québécois, par l'entremise des seigneuries qu'il a... au 19e siècle, obtenu par la dissolution des biens des Jésuites, perçoit un montant, pour dire se paye lui-même, un chèque de 93 000 $ pour les anciens fiefs qui appartiennent toujours à la couronne. Faire l'histoire de cette ultime étape de la seigneurie québécoise révèle à quel point ce n'est que récemment que l'institution s'est réellement éteinte. Cela témoigne aussi du fait que les persistances durant tout le 20e siècle étaient bien plus que patrimoniales ou toponymiques. Des individus et des personnes morales ont été considérés légalement comme seigneurs au moins jusqu'en 1940, et ceux-ci ont touché des sommes parfois considérables pour cette seconde abolition qui a, après celle du 19e siècle, de nouveau indemnisé les détenteurs des droits seigneuriaux. Certains étaient les descendants directs des seigneurs en place à l'abolition, d'autres étaient de nouveaux venus, appelons-les comme ça, ayant acquis ces droits seigneuriaux dans l'intervalle. Qui plus est, même après cette date symbolique de 1940, un peu partout au Québec, des individus, souvent propriétaires d'anciens domaines ou de terres non concédées, se considéraient et se considèrent encore en tant que seigneurs. C'est le cas ici et là. J'évoquais la seigneurie de Beaupré tout à l'heure. Ça, c'est l'historique sur le site web que vous pouvez, sur lequel vous pouvez aller n'importe quand, seigneuriedebeaupré.com. C'est pas que patrimonial. Alors, il présente vraiment ces terres immenses, où on peut aller faire, vous pouvez venir et louer un camp de chasse et pêche sur l'ancienne seigneurie de Beaupré. Encore récemment, une dame m'appelle un vendredi après-midi à mon bureau parce qu'elle a entendu dire que je travaillais sur ces enjeux-là. Elle m'appelle, elle se présente pas. Bonjour, je suis une telle seigneuresse de Fossambeau. Parce qu'elle détient finalement l'ancien domaine seigneurial de la seigneurie de Fossambeau. Et là, elle m'a occupé pendant une heure sur le fait qu'elle revendique encore le droit à la rivière qui traverse la municipalité, parce qu'effectivement, tout l'enjeu du droit de l'eau est aussi impliqué là-dedans, puisque le législateur a clairement reconnu, j'ai pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais ça ferait l'objet d'une autre thèse, le législateur a clairement reconnu que les seigneurs détenaient la pleine propriété des rivières non navigables. Et jamais on a aboli ça par la suite. À l'époque où se mettent en place de nombreux moulins à scie pour l'exploitation forestière, c'est à lui seul un enjeu très considérable. Et sans parler d'Annie Antoine, qui rêve d'acheter une seigneurie au Québec, à défaut d'une cabane au Canada. On voit d'ailleurs parfois d'anciennes îles ou d'anciennes seigneuries qui n'avaient jamais été mises en valeur, donc qui sont toujours finalement demeurées d'un seul tenant, on pourrait dire un domaine simplement, des îles, notamment dans le Saint-Laurent, qui sont mises en vente et qu'on présente comme vente de la seigneurie de tel endroit, parce que c'est le même territoire que la seigneurie originale. Donc, la seigneurie québécoise offre, à mon avis, un paradoxe saisissant pour réfléchir à ce rapport entre histoire et mémoire. Et je vais conclure sur ces réflexions. Nul ne peut nier que le régime seigneurial, sans doute, comme le disait Louise Deschênes, en raison de son antériorité sur tout le reste et de son rapport étroit donc au peuplement colonisateur de la vallée du Saint-Laurent, berceau de la francophonie d'Amérique. Ici, vous avez donc, l'île d'Orléans. On voit bien les traces, quand on parle des traces dans le paysage, celles-là, on y pense spontanément, elles sont bien connues. L'île d'Orléans prise sur Google Maps aujourd'hui ou l'île d'Orléans sur une carte de 1709, ça n'a à peu près, pas changé. Donc, on associe spontanément la seigneurie à l'occupation du sol et par conséquent à la création du paysage rural québécois. À tel point d'ailleurs que l'enseignement du thème seigneurial dans le programme d'histoire au secondaire se limite pour l'essentiel à présenter une vision que je dirais classique et désuète du seigneur colonisateur. On en parle quand vient le chapitre sur la colonisation de la Nouvelle-France. Si on est chanceux, on aura une ligne pour dire que c'est aboli en 1854, mais c'était comme si c'était figé dans le temps que cette institution. Donc, la seigneurie, elle est aussi omniprésente dans l'espace laurentien, ayant donné lieu à de multiples processus de patrimonialisation dans la partie du territoire qui lui fut autrefois soumis. Puis à cet égard encore, il faut admettre que la mémoire seigneuriale se porte bien. Hein? Combien de villes, de villages du Québec actuel correspondent à ceux des anciens toponymes seigneuriaux, sans compter le nom de rues, d'écoles ou d'autres bâtiments publics qui honorent la mémoire des anciens seigneurs, plus rarement des anciennes seigneuresses. Dans ces localités autrefois seigneuriales, on recense donc bon nombre de bâtiments aussi patrimoniaux qui rappellent ce passé seigneurial. À Saint-Jean-Port-Joli, on a carrément reconstruit à l'identique en 2009 le manoir seigneurial incendié 100 ans plus tôt. Celui-là, il est vraiment symbolique parce que c'est le lieu de naissance d'un des principaux, on pourrait dire un seigneur, mais aussi un des pères de la littérature canadienne-française, Philippe Aubert de Gaspé, sans quoi on n'aurait jamais reconstruit ce bâtiment. Donc, ces lieux peuvent servir une panoplie de fonctions. Ils sont tantôt privés, tantôt publics. Enfin, je pourrais terminer en disant que la littérature, elle aussi, et même la fiction historique, ont donné de belles pages marquées par la trame seigneuriale. Et cette représentation de la seigneurie dans la littérature québécoise, ça, c'est un sujet qui mériterait d'être analysé, ce qui n'a jamais été fait. Notamment dans l'œuvre d'Anne Hébert, qui a reçu de prestigieux prix littéraires, notamment le prix Fémina en 1970 pour son roman Kamouraska. Anne Hébert est elle-même fille et petite-fille de deux familles éminentes de la noblesse seigneuriale. Beaucoup de littéraires sont intéressés à son œuvre dans plein de perspectives, notamment dans une perspective féministe, mais jamais dans une perspective que je qualifierais de seigneuriale. Pourtant, je pense que c'est peut-être ce qui a le plus nourri son imaginaire. Récemment, télésérie mettant de l'avant l'imaginaire seigneurial. Donc, comment expliquer, c'est peut-être mon questionnement final, comment expliquer que ce régime seigneurial et cette propriété seigneuriale qui a disparu relativement récemment, pourrait retenir 1940, on pourrait même retenir, je le disais, 1970, ne soit associé essentiellement qu'à un passé lointain, au mieux celui du 19e siècle, mais le plus souvent celui du régime français. La mémoire des événements terminaux de l'extinction de la propriété seigneuriale au Québec semble donc inexistante. On peut se demander pourquoi ces derniers seigneurs, légalement reconnus comme tels et dédommagés en 1940-1950, sont occultés tant par la mémoire que par l'histoire, en tout cas par les historiens. Je vais me limiter ici à quelques hypothèses et pistes de recherche. La mémoire seigneuriale entretenue à la fois par l'histoire et la littérature depuis le 19e siècle est si étroitement associée au régime français et au processus de colonisation qu'elle rend très difficile toute tentative de proposer une autre vision de l'histoire seigneuriale au Québec. D'autre part, la diversité du groupe seigneurial en 1940 dont j'ai parlé, qui compte bon nombre d'institutions, notamment même d'institutions bancaires et de certaines familles aux origines très, très diverses, limite considérablement la possibilité même de l'existence d'une conscience de groupe parmi ce qu'on pourrait appeler la classe seigneuriale. D'autre part, si une telle conscience existe, peut-être chez une frange de ces groupes, notamment certaines familles issues de la noblesse seigneuriale française qui ont perduré dans le temps, parce qu'on en retrouve des gens qui habitent encore aujourd'hui les manoirs seigneuriaux et qui sont issus, un peu comme on peut en voir un peu partout dans les provinces françaises. Ils sont plus rares au Québec, mais il en existe encore. On peut imaginer parmi ces gens une certaine conscience identitaire seigneuriale. Si elle existait, ils se sont montrés très discrets. C'est un groupe qui a été à l'époque et qui demeure encore aujourd'hui, parfois très influent. On l'a vu avec l'exemple du seigneur Joly de Lebinière que j'ai montré. Seulement dans les dernières années, moi, je suis tombé sur des nécrologies, sans faire de recherche, mais par le hasard, de plusieurs descendants de ces grandes familles seigneuriales qui ont occupé des fonctions importantes, notamment à titre d'ambassadeur canadien dans la deuxième moitié du 20e siècle, ou des fonctions militaires d'importance au Canada. Mais très discret. Donc, d'abord, la rupture seigneuriale a fait la fin du régime a fait très peu de bruit dans les années 1940, vous l'avez vu, très peu de bruit dans les journaux, encore moins les sommes d'argent qui ont été versées. Personne n'en a parlé, on était loin, bien sûr, du journalisme d'enquête. La discrétion des principaux acteurs, ces derniers seigneurs québécois, constitue possiblement, en fait même très certainement, à mon avis, une partie de l'explication. Malgré les prétentions modernistes et égalitaires des lois de 35 et 40 visant à éteindre les rentes seigneuriales dans la province de Québec, il faut admettre que les seuls gagnants de cette abolition sont justement les seigneurs qui n'avaient sans doute aucun intérêt à crier haut et fort les chèques reçus. Ont-ils été vraiment oubliés? Par contre, si on se transpose non plus à l'échelle du Québec, mais à l'échelle locale, il est clair que cette mémoire, elle existe. Et c'est celle que j'aimerais documenter dans une prochaine étape. À Trois-Pistoles, Mme Rioux, 90 ans, se fait encore appeler la seigneuresse par les vieux habitants de la localité. Maître Poupard, qui est avocat, habite encore le manoir de ses ancêtres, les seigneurs de Saint-Ours, à Saint-Ours sur le Richelieu. Jolie de Lobinière, que vous avez vu tout à l'heure, était clairement considéré encore comme le seigneur. Et il venait encore au moins une fois par été occuper son banc seigneurial à l'église de Lobinière, où il gardait une résidence d'été, même s'il n'habitait plus le domaine seigneurial. Et même des seigneurs ecclésiastiques, comme le séminaire de Québec, se targue encore d'être seigneur de Beaupré. Il existe donc une mémoire, non pas à l'échelle du Québec, mais à l'échelle locale, lorsque ces derniers acteurs ont représenté une figure identitaire concrète et qu'ils étaient associés réellement à un lieu physique, un manoir, dans une localité donnée. C'est le cas des exemples que je viens de formuler. Cependant, et je vais terminer là-dessus, il faut reconnaître l'oubli de la part des historiens du 20e siècle. Et là, j'adresserai une critique à mes collègues historiens du contemporain, peut porter à chercher les vestiges de la féodalité, plutôt au Québec, en tout cas sur la piste de la modernité, notamment depuis les années 1960, alors qu'au Québec, toute une génération d'historiens a cherché à démontrer la normalité de la société québécoise en Amérique du Nord qu'on avait effectivement trop souvent peint de manière folklorique. La recherche des persistances féodales ne cadrerait assurément pas dans ce programme historiographique. Peut-être faut-il admettre aussi un désintérêt plus large de la société québécoise pour ce rapport d'altérité seigneur-censitaire directement issu de l'Ancien Régime et qui a pourtant duré jusqu'au 20e siècle. Et ce désintérêt apparaît particulièrement en contraste avec l'omniprésence de la mémoire d'un autre rapport de domination au Québec, celui de l'Église catholique. Parce que si le rejet du pouvoir clérical a été soudain et la sécularisation de la société québécoise très rapide dans les années 1960-1970, au contraire, c'est ce que j'ai tenté de vous montrer aujourd'hui, l'extinction du pouvoir seigneurial a été très lent et progressive, voire incomplète à certains égards.